Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est le warm-up du Grand Prix de Bakou, Grand Prix d'Azerbaïdjan plutôt à Bakou, c'est mieux dans cet ordre-là. Bah on est fatigué, hein. C'est la 17ème manche du championnat du monde, on commence à être bouilli. Comme les pilotes de Formule 1 qui commencent à enchaîner eux aussi les dates, week-end après week-end, ça y est la Formule 1 qui quitte l'Europe et qui se retrouve à Bakou. C'est toujours un circuit sympa en plus en Azerbaïdjan, les pilotes apprécient ce tracé. On va bien sûr revenir sur les caractéristiques de ce circuit. On vous propose aujourd'hui dans ce warm-up de faire un gros point sur Isaac Hadjar, parce qu'Isaac Hadjar était de retour en France le week-end dernier à Magny-Cours. Il a pu rencontrer le public français et il a basculé dans une autre sphère. Et en plus, il y a un de nos ingénieurs qui était là-bas. On a du pot. Il va pouvoir nous en parler. On va revenir également sur ce qui s'est passé chez McLaren après Monza et ses fameuses consignes d'équipe. Est-ce que ça peut laisser des traces pour la suite de la saison? En tout cas, les adversaires de McLaren ne se sont pas gênés pour parler de ce fait de course. Et il y a des petites actus qui sont tombés sur les courses sprint en 2026 et le futur format 2027. Bref, il y a des petites news Formule 1 comme d'hab dans le warm-up. Les ingénieurs sont là, il y en a un qui sort de la sieste, il est toujours à l'heure, c'est ça qui est très fort avec lui. Louis Gerbier, salut mon loulou.
Salut à tous, salut Séraphin.
Mais comment, et toi t'es un pilote de Formule 1, t'es capable de faire des micro-siestes et tout ça, t'arrives direct, tu remontes dans le baquet et t'es performant.
Tac, un café et paf, le meilleur tour.
Ça c'est énorme. Je vous parlais de notre ingénieur qui allait rencontrer Isaac Hadjar à Magny-Cours. Il s'est régalé, c'est Séraphin Bête. Salut Séraphin.
Salut Nico et salut Louis.
Alors cette expérience là, faut que tu nous racontes là.
T'as c'était fou. Déjà Magny-Cours, évidemment, circuit où il y a eu la Formule 1 auparavant. Et ouais, super événement qui était organisé par Red Bull. Effectivement, ouais. on va en parler, mais il y avait Isaac Hadjar, donc c'était un peu la star du week-end, autant acclamé qu'un certain Simon Stialob.
Tu m'étonnes. D'ailleurs, allez voir les petites vidéos que Séraphin vous a préparées là, sur la page Instagram RMC Formule 1. Il y a la conf de presse d'Isaac Hadjar, il y a du public en folie, il y a des petits tours aussi au volant de la Red Bull. Il s'est régalé le Séraphin, franchement. ça c'est nickel. Je vous rappelle également que vous pouvez noter le paddock RMC sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vous le répète à chaque fois parce que c'est super important pour que le podcast continue à exister. Et puis que si vous ne l'avez pas encore fait, vous vous abonnez au podcast. Quand vous vous abonnez au podcast, ça vous permet de télécharger directement l'épisode et de l'écouter direct quand il sort. Pas besoin de notification. Et ça, c'est quand même cool. C'est parti les gars, on se plonge dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Dix-septième manche de la saison, on le disait, je vais tout de suite vous donner le programme du Grand Prix, si j'arrive à le retrouver, il est là exactement, avec la première séance d'essais libres qui aura lieu demain vendredi à 10h30, je vous rappelle qu'on enregistre ce podcast le jeudi, deuxième séance d'essais libres à partir de 14h, toujours demain, samedi, les essais libres 3, 10h30, les qualifs à partir de 14h sur RMC avec Jean-Luc Roy, et la course à partir de 13h dimanche sur RMC. Avec Jean-Luc, c'est donc un week-end de 100 courses sprint à Bakou. À partir de demain. Séraphin, les spécificités de ce circuit, on les connaît. Circuit en ville, circuit qui est apprécié par les pilotes. Il y en a plein qui disent Charles Leclerc, Pierre Gasly. Moi j'ai lu des tas de déclats. Max Verstappen, c'est un circuit sur lequel les pilotes aiment bien rouler. Hein.
C'est vrai, c'est un circuit urbain assez récent. Mais qui est plutôt apprécié, et même nous en tant que spectateurs, donc c'était depuis 2016 quand même, on l'a au calendrier, et je trouve que ça commence à devenir vraiment un classique, dans le sens où c'est un circuit urbain, donc les murs collés, on est parti très sinueuse, mais on a aussi une partie intéressante avec une pleine charge sur le dernier secteur où on a vraiment des très très grandes vitesses de pointe, donc il est assez je trouve qu'il est assez varié et ça peut être intéressant. Moi, je pense que du coup, ça peut vraiment pouvoir McLaren pas tout à fait aussi haut que sur d'autres tracés. Ça peut peut-être équilibrer un peu.
Donc, quand tu me dis ça.
Donc c'est un bon circuit. Et je pense toujours à Charles Leclerc quand même. C'est quatre fois qu'il fait la pole position sur ce tracé.
C'est vrai.
Il est particulièrement à l'aise.
Mais tu sais que depuis 2016, il n'y a qu'un pilote qui a réussi à gagner deux fois à Bakou. Et alors là, si vous me le trouvez, celui-ci, bon, sauf si vous avez bossé les stats, mais...
Moi, j'ai sous les yeux, donc je vais pas...
Ah. Est-ce que Loulou va dominer ?
Je suis le seul à jouer. Deux fois, il a gagné depuis 2016.
Ouais.
Non, j'en sais rien.
Dans une Red Bull
Verstappen.
Et non, c'est Sergio Pérez.
Ah mais oui, le king des villes, mais bien sûr.
Exactement, Sergio, en 2021 et 2023. Sinon, depuis 2016, t'as Nico Rosberg, Daniel Ricciardo qui a gagné là-bas, Lewis Hamilton en 2018, le plus beau mulet du monde, Valtteri Bottas en 2019. Du coup, le doublé de Sergio, Verstappen en 2022 et Oscar Piastri l'année dernière en 2024. Ouais. Et Charles Leclerc, le pauvre, il signe 4 pole positions consécutives et il n'arrive pas à soulever le trophée. Coup dur pour Carlito. Mais c'est vrai que Louis, on en parlait nous dans notre débrief et dans notre warm-up pardon, de l'année dernière, parce qu'il y a déjà le warm-up la saison dernière. Et toi, je sais que c'est un circuit que t'aimes bien aussi.
Ah, j'adore. Ouais. Bakou, ouais.
Ouais, j'adore ce circuit. Pour les raisons évoquées par Séraphin, c'est un circuit hybride, c'est un circuit qui rassemble plein de choses qu'on peut voir de manière plus homogène tout au long de la saison. Là, lui, tout est regroupé en un, avec même juste parfois un peu à l'excès, parce que ce fameux virage du château, et il a un peu pas trop de sens au niveau course pure, quoi. Tu étais là juste, tu te faufiles parce qu'il n'y a pas d'autre itinéraire et tu reprends la course limite sur le virage d'après. Et juste après ça, tu as une espèce de fausse ligne droite très rapide, un gros freinage, et ensuite tu pars sur deux gros virages, puis une ligne droite interminable. Derrière, tu commences par des virages quasiment à 90 tout le temps.
Donc gros freinage, ouais.
Et avec gros freinage, on voit tout. Et surtout aussi, pourquoi on l'aime bien, c'est que finalement, depuis ces dernières années, on voit toujours quelque chose, quoi.
C'est vrai. On se rappelle, il se passe toujours quelque chose.
Ouais, on se rappelle même de Verstappen qui à un moment a éclaté son pneu dans la ligne droite. On se rappelle même de manière plus... anecdotiques de Stroll Bottas où ça joue sur la ligne comme ça pour un podium, il passe juste devant, c'est Bottas qui passe sur la ligne le petit Lance Stroll à l'époque qui devait être dans la Williams je crois même à l'époque. Enfin, bref, on a Charles qui certes fait plein de pôles mais qui aussi aime bien aller se mettre dans le virage du château un peu là pour faire un bisou au mur. Il se passe souvent plein de choses sympas et ça rend la course vraiment cool. Évidemment, le freinage raté d'Hamilton juste après avoir dit les gars, on reste concentrés, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Boum. Course perdue et peut-être même le championnat ce jour-là. Donc voilà. Non, c'est moi, je suis toujours ravi quand il y a le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui arrive.
Gasly a un podium aussi, si vous vous souvenez. Sur...
Oui, exact,
Gasly,
bravo.
Gasly a un podium. Ouais. Et d'ailleurs, il l'a dit, c'est toujours un truc qu'il appréciait particulièrement. C'est vrai qu'il y a toujours des scénarios de course très sympas. Tiens, un petit mot sur la météo qui est attendue à Bakou ce week-end. Ça peut être un peu pluvieux là, vendredi, samedi, pour les qualifs. Par contre, dimanche, on annonce une journée assez sèche. Il fait frais hein, quand même, Séraphin. Hein. Les maximales 21-23 degrés.
Ah ouais. Est-ce qu'il y a du vent
ça, ouais. J'ai pas le vent, je t'avoue.
Ah, voilà. Parce qu'on sait que souvent dans les genres de tracés.
T'as les hectopascales, s'il te plaît.
La pression atmosphérique.
Mais ça, Séraphin, c'est le vrai ingénieur. C'est là où moi je suis un amateur. Je te connais pas encore assez. J'aurais dû la bosser, ma météo. Alors attends, je vais regarder ça tout de suite. Le vent à Bakou. Pourquoi tu penses que le vent ça pèse toujours, mais
ça pèse
plus qu'ailleurs.
La ligne droite, par exemple, entre le vent de face ou de dos, ça peut jouer vachement. Et après, il y a quand même le premier et deuxième secteur. Il y a certains endroits où c'est assez sinueux à travers les rues, la rue, tout simplement. Donc ça peut aussi, si le vent s'engouffre. Bon, après, ça dépend, mais ça peut avoir une petite importance ou pas s'il y a un vent assez élevé.
On peut avoir une petite rafale de vent. Non, 30 km/h. On est sur de la brise douce,
ouais,
hein, d'après
météo brise,
en France.
Il n'y a jamais plu, je crois, sur ce Grand Prix.
Ça me dit rien.
Donc c'est vrai que ça me dit rien.
Il fait frais, mais on est toujours quand même au Moyen-Orient et tout. On est à un côté où il fait souvent sec.
Je l'ai déjà fait en simu sous la pluie sur F1.
Ouais, si.
Et ça, le sinueux, je peux te dire que tu te prends un peu la tête au début. Mais ouais, en vrai, ça me dit rien.
Et enfin, d'après nos confrères de Météo France, nos collègues de Météo France, la visibilité s'annonce excellente, Séraphin. Est-ce que tu as d'autres questions sur la météo?
Ah, ça, c'est pour l'hélicoptère, ça.
Ouais,
on
va pouvoir lancer le Grand Prix en toute sécurité.
Là, c'est nickel. On voulait vous parler d'Isaac Hadid. Juste un mot quand même avant. Parce que ça paraît tellement anecdotique quand même sur le sportif. On va pas revenir sur la lutte un petit peu pour le championnat du monde pilote. Hein. Vous pouvez télécharger le dernier débrief de Monza, écouter le dernier débrief d'ailleurs, qui est bien évidemment toujours en ligne et qui cartonne. Parce que je vous le dis, les gars, le paddock RMC a de plus en plus d'auditeurs. À chaque fois qu'on sort un petit podcast, l'épisode cartonne un peu plus que le précédent. Et ça fait bien plaisir.
Eh bah avec Séraphin, on met maintenant une casquette et des lunettes dans la rue. Hein. C'est terrible. Bah,
c'est Est-ce qu'on, vous n'avez pas encore signé l'autographe ?
Non, on n'a pas encore.
Pour l'année prochaine. Mais McLaren, Séraphin, peut être champion du monde constructeur dès ce week-end.
Eh bien oui, c'est le cas. McLaren, qui ont surdominé, c'est quand même depuis le début de la saison. Voilà, on le dit souvent, hein, là, ils sont à 617 points quand même. Ferrari sont à 280, Mercedes 260. Donc il y a plus du double, hein, tout simplement. Et donc McLaren peut être titré ce dimanche s'il termine avec 9 points de plus que Ferrari. Donc il suffit qu'ils fassent 1 et 2, par exemple, ils peuvent gagner. Bon, on le savait de toute manière, ça fait très longtemps qu'on le dit. Mais là, quand même, on est au 17e Grand Prix. Ça faudrait, je suis curieux de voir sur les dominations, même de l'époque Mercedes, tout ça, 2023, c'est avec Red Bull, parce que quand même, ça peut être lourd s'ils mettent déjà le trophée de champion constructeur. Mais ça montre aussi à quel point toute la saison ils ont dominé, clairement, les doublés McLaren, les victoires. Voilà, il y en a 3 qui sont passées pour Verstappen, 1 pour Russell, tout le reste c'est de McLaren. Donc. C'est mérité, ils ont surdominé, ils ont trouvé dans cette voiture une gestion des gommes incroyable, efficacité dans les virages à haute vitesse. Bon voilà, cette voiture elle est extrêmement bien équilibrée, donc on peut que saluer, c'est assez fort.
Écoute, je vais essayer de chercher la stat là pendant le podcast. Depuis quand une équipe, un constructeur n'a pas roulé comme ça sur le championnat? Parce que 617 points à la 17e manche, franchement.
Il reste 2 sprints en plus.
Et en plus, il reste 2 sprints. Ouais.
Faudrait regarder les années Hamilton-Rosberg quand les deux vraiment étaient au-dessus des autres. Parce que vraiment, là, c'est énormément de points. Et ce qui fait que ça fait quoi? Ça fait peut-être déjà 6 mois qu'on sait qu'on attend juste quand ils vont l'être, mais qu'il n'y a plus de suspense de ce côté-là.
Mercedes, sur les pilotes. Où, les copains? Voilà.
Heureusement qu'il y a
le petit
pilote quand même qui nous met encore en haleine jusqu'à la fin, même si c'est un peu écarté, mais c'est toujours.
Là, tu vois, là, 573 points en 2020, Mercedes. Bon, je vais essayer de vous trouver la stat. En
2020, il n'y a pas les sprints aussi, donc des petits points en moins.
Mais c'est vrai, Louis, que la domination est écrasante. Moi, je me rappelle encore des débats qu'on pouvait avoir il y a 5-6 mois, 7-8 mois en début de saison, où on se disait mais ça va être la saison la plus dense de l'histoire, peut-être tout se resserre, dernière année de la réglementation, et franchement on était plein d'espoir, et là ils ont mis une claquasse à tout le monde. C'est impressionnant quoi.
Ouais, et puis comme souvent on va dire, il y a celui qui bosse mieux, mais derrière il y a quand même un peloton hyper resserré, et on voit des qualifs quand même assez incroyables, parce que sur un tour tu peux un peu plus gommer ton retard, ça dépend un peu comment est ta voiture, si le pilote sort un tour où il va chercher des dixièmes que la voiture n'avait pas forcément comme ça. Et donc tu vois quand même que tout est très proche, même Alpine qui est en soi à la rue, finalement ils sont à la rue, mais ils sont même pas à 2 secondes. Quoi. Donc il y a eu des réglementations où être à la rue, c'était être à plus de 3 secondes. Donc ça reste un peloton groupé, mais c'est vrai qu'on a quand même toujours l'hégémonie McLaren, puisque eux, ils ont clairement un temps d'avance, ce qui leur permet même de pas se soucier trop de leur stratégie parfois. Pas aléatoire, j'irai pas jusque là, mais perfectible, parce que en fait ils savent que de toute façon ça va le faire, quoi. Ils sont au-dessus, mais on s'attelle à s'intéresser à la bataille pilote, et elle je pense qu'elle peut durer vraiment pas loin de jusqu'au bout de la saison. Normalement, si je dis ça, Norris va abandonner à Bakou et ça sera fini. Mais j'y crois quand même.
Ouais. Parlons un petit peu quand même de tout ça, Séraphin, parce que en conférence de presse, bien évidemment, on est revenu sur ces fameuses consignes d'équipe données à Monza avec Piastri qui laisse passer Norris. Et il y a eu pas mal de sous-entendus dans le paddock aujourd'hui à Bakou. Vous savez que la journée média, c'est le jeudi. Et il se trouve qu'avec le décalage horaire, les conférences de presse se sont déroulées il y a quelques heures. Certains pilotes laissent sous-entendre que McLaren a fait un peu aussi peut-être le choix de, de vouloir voir Norris gagner, que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Enfin, les adversaires essayent un peu de déstabiliser McLaren là, suite à cette consigne.
C'est sûr, on a vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de centres de réaction, on en a parlé, mais en vrai, dans pas mal de réactions, pas mal de, dans les médias, d'autres personnalités aussi du sport automobile, c'est sûr que ça a été, en tout cas, ça a donné du grain à moudre, critiquer positivement, négativement, mais en tout cas, ça a fait forcément réagir et on se positionne voilà, d'un côté à l'autre. Et ouais, c'est vrai que ouais, en conférence de presse, évidemment, bah, on les a beaucoup interrogés dessus. Moi, j'ai vu aussi une déclaration d'Oscar Piastri qui a dit que pour lui, le plus important à Monza, c'est qu'en fait, au final, il méritait de finir troisième. Il a dit que de toute façon, il avait pas le rythme, qu'il n'était pas assez bon. Donc, il dit sur
la globalité du week-end. On lui a posé une question coquine. On lui a dit Oscar, est-ce que tu aurais rendu la place si c'était pour la victoire?
Ah bah. C'est là où...
Bah, il a pas répondu.
Qu'est-ce que foutait Jean-Luc Reichmann en conférence de presse?
Il a dit, bah, ça s'est pas produit, donc je peux pas te répondre. Mais bon, il y a eu un petit blanc, tu vois. Et on lui a posé des questions. Non, mais c'est ça, il y a des questions un peu coquines qui commencent à tomber. On sent que, voilà, même du côté des journalistes, de la presse, de tout le paddock, ça commence à crépiter un petit peu, là, entre Lando Norris et Oscar Piastri, Louis.
Ouais, c'est de bonne guerre. De toute façon, ils ont bien compris que sur la piste, ils sont un peu derrière, voire beaucoup derrière les autres. Donc, voilà, tu à coup de petits pics, à coup de petites déclarations. Et puis de toute façon, on le sait, on les trouve, ce que je disais tout à l'heure, on les trouve quand même parfois un petit peu légers sur leur stratégie ou sur leur prise de décision. Parfois, d'ailleurs, elles peuvent parfois être bonnes, mais souvent, au niveau du timing, elles vont être prises un peu tard. On sent qu'ils marchent sur des œufs à chaque fois avec leurs deux pilotes. C'est le revers de la médaille d'avoir deux profils similaires de très bons pilotes qui peuvent jouer le titre jusqu'à très loin dans la saison. À l'inverse, quand tu étais chez Red Bull, bah, tu n'avais pas ce problème-là, mais c'était dans le sens inverse trop, puisque l'autre, tu le tires comme un boulet limite et il ne t'aide pas. Et c'est comme ça que l'année dernière, tu perds le constructeur. Bah là, c'est l'inverse. Donc voilà, ça fait partie des avantages, des inconvénients des deux situations différentes. Mais moi, ces petites déclarations, ces petites questions, Piastri, en plus, je trouve qu'il se détend un peu, vraiment. Lui qui,
oui,
était, lui qui était resté quand même assez froid. Là, ça y est, il commence à répondre, à avoir un peu à manier l'ironie, à jouer un peu avec les journalistes un petit peu plus, et c'est sympa. S'il devient un meilleur client, peut-être qu'il est coaché aussi pour ça, parce que oui. on sait que dans un monde où tu peux potentiellement devenir champion du monde, bah il va y avoir des marques, des sponsors, tu deviens une marque à part entière, et donc bah ta communication est encore plus importante que quand t'es tout simplement juste le petit prodige qui vient d'Australie. Là maintenant, c'est un vrai pilote de F1 avec tout ce que ça amène aujourd'hui en 2025 quand tu es tout proche, enfin en tout cas toujours en lice et favori pour le titre, quoi.
Ouais, et on va voir comment ça se passe ce week-end à Bakou, si jamais les McLaren sont dominantes. D'ailleurs, ouais, c'est ce que tu nous disais, Séraphin, toi tu vois pas forcément McLaren ultra dominant ce week-end. Bah, quand on voit que Red Bull va un petit peu mieux, que Charles Leclerc, c'est un circuit qu'il adore aussi, on se dit qu'ils peuvent être un peu chatouillés aussi, hein, à Bakou.
Ouais, ça va se jouer. Ça peut quand même voir McLaren, mener le Grand Prix comme on l'a vu depuis le début de la saison sur beaucoup de circuits.
Ouais, mais peut-être avec moins de marge,
voilà,
c'est ça que je veux dire. Quoi.
On avait eu un peu finalement, bah, à Monza, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même aussi cet effet-là, et Red Bull avait été impressionnante, grosse vitesse de pointe. Et c'est vrai que du coup, là, un circuit où on a un premier, deuxième secteur qui est lent, mais d'un autre côté, il y a quand même, c'est pas non plus un circuit, il y a des longs virages en appui où McLaren peut vraiment être au-dessus. C'est quand même des gros freinages et des épingles à 90, mais après, du coup, sur le reste de le troisième secteur, c'est vraiment une longue ligne droite. Donc si une écurie décider par exemple de privilégier plutôt la vitesse de pointe, et ben ça pourrait la permettre de doubler ou en tout cas de gommer l'écart. Donc ouais, ça peut jouer vraiment entre Ferrari, entre Red Bull évidemment avec Max. Donc justement, c'est je trouve que c'est cool finalement pour le championnat, et tu l'as dit, on s'attendait à une plus grosse à plus d'équipes pouvant essayer de marquer des victoires cette année. Et donc si là sur ce genre de tracé, surtout qu'il reste plus beaucoup de courses et sur le reste des tracés, ouais. McLaren va quand même encore être de, je pense au Qatar, Interlagos, voilà des genres de tracés. Donc là il y a celui-ci qui va pour moi permettre d'équilibrer un peu. Donc c'est bien pour le championnat et pour voir autre chose que du orange papaye tout en haut du podium.
Alors vous savez que je suis en train de chercher là toujours cette stat, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant, voilà, je crois que c'est un record, hein. 617 points là, avant la 17e manche, alors bien sûr il y a les courses sprint, mais j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça dans l'histoire de la Formule 1, à confirmer, mais là j'ai checké toutes les saisons Mercedes en train de faire mes petites soustractions, et voilà, Dieu sait qu'en maths, c'est mon dada, je peux vous dire que pour l'instant, on n'a jamais vu ça,
c'est pas surprenant,
ouais. Ouais, c'est pour vous montrer un petit peu la domination et vous dire la domination de McLaren. Les gars, on voulait revenir également sur le phénomène de cette reprise depuis la trêve estivale. C'est bien évidemment Isaac Hadjar qui a signé un podium à Zandvoort, qui a fait une remontée fantastique à Monza où il partait des stands et il termine dixième. Séraphin, il faut que tu nous racontes parce que tu l'as rencontré. Il était à Manicourt ce week-end. Devant 25 000 fans français complètement fous de lui à Manicourt en plus donc voilà, circuit mythique. Faut que tu nous racontes cet événement Red Bull là, c'était le Red Bull Motormania, il n'y avait pas qu'Isaac Hadjar, mais c'était vraiment lui la tête de gondole un petit peu de l'événement. Est-ce que toi t'as été surpris par cet engouement, comment tu l'as trouvé, bref faut que tu nous racontes un peu tout ça.
C'est marrant que tu dis ça parce que après coup, le lendemain, oui, j'ai eu cet effet-là. C'est-à-dire que donc on est sur le circuit de Manicourt, 25 000 personnes, donc plein de voitures Red Bull en piste. Hein. On a eu de la Formule 1, on a eu du WRC, on a eu de la moto, on a eu du freestyle.
Sébastien Loeb,
Pedroza, effectivement, plein de tous les grosses stars finalement de l'automobile chez Red Bull. Et donc ouais, c'était un super événement. Et effectivement, si on fait une fixette sur Isaac, c'était impressionnant effectivement de voir. Je m'attendais à ça parce qu'en plus il y a eu son podium récemment, donc même Red Bull m'a dit qu'ils avaient vraiment fait, ils avaient tout vendu les billets encore plus rapidement depuis le podium. Mais c'est vrai que je m'attendais à ça, mais là comme là la popularité qu'il a eu et le niveau de gens qui ont l'aura qu'il a eu comme un champion en fait, c'était impressionnant. Donc Pour la petite histoire, il est arrivé le matin vers 11h30. Il est arrivé un peu en retard parce qu'il devait même arriver plus tôt. Je devais même rouler avec lui sur circuit, mais du coup, c'était pas lui qui a piloté. Et donc, il est arrivé sur une fan zone. Voilà, on imagine grosse fan zone. Et là, vraiment, Isaac Hadjar est acclamé. Il y avait des gens avec des pancartes, mais vraiment, c'était ouais, comme si qu'il avait fait déjà des années en Formule 1 en fait, et que c'était Isaac Hadjar, c'est le pilote, la star de la F1. Donc ouais, non, c'était impressionnant, les gens vraiment criaient son nom et ils étaient super heureux de recevoir tout cet amour par le public français, parce que c'était quand même aussi la première fois qu'il revenait quand même pour un événement comme ça assez important officiel en France depuis son podium, et donc depuis que sa carrière a pris un petit tournant, en tout cas son championnat voilà, en tant que pilote cette saison, ça a débloqué quelque chose. Et ouais, donc c'était un gros support des fans français. Il avait son podium aussi, son trophée qui était réparé de Zandvoort. Il y avait justement des teams évidemment de Isaac Hadjar qui étaient là, donc qui lui ont apporté son trophée. Et sur tout le reste des endroits, donc l'idée c'est qu'on pouvait aussi, même tout le monde pouvait accéder, voilà, au paddock derrière pour voir les voitures, ouais. un peu partout. Hein, c'est pas que la fan zone et les tribunes. Et donc partout, il signait des autographes, il faisait des photos. Et donc ouais, j'ai senti qu'il y a un moment, même le moment où il est parti, parce que pour l'histoire, je l'ai vraiment vu partir en fin de journée. J'étais voilà, au moment où tout le monde est près du stand Red Bull, parce qu'il a fait deux tours avec la RB 7, je crois que c'est pas dit, donc 2011. Et donc près du stand effectivement Red Bull, à un moment donné, on le voit sortir. Les gens comprennent qu'il était là, et donc tout le monde, oh, Isaac. Il y avait des barrières un peu partout, mais on sentait qu'ils étaient trop submergés. À un moment donné, ils font des photos, ils signent des autographes, mais tu sens qu'il n'en peut plus. Et c'est normal. Ouais. Et donc, je pense qu'il vient aussi de se rendre compte, il le savait, mais que là, vraiment, il vient de basculer même Sébastien Loeb l'a dit d'ailleurs en interview, l'a dit en disant qu'il se rend compte qu'en fait, en un an, Isaac Hadjar, il passait de pilote, entre guillemets, pas très connu, ou alors nous, parce qu'on suit aussi la Formule 2 et depuis des années, mais au niveau grand public, elle a vraiment une star internationale,
mais pilote de Formule 1. On peut le dire, et c'est pas offensant contre Isaac, pour le grand public, il est passé de no-name, c'était quelqu'un qu'on connaissait pas, sauf si t'es un dingue de sport méca, de sport auto, et que tu regardes ça tous les week-ends, à le pilote français le plus connu du moment, le plus bankable aussi pour les marques, le plus frais, celui qu'on a envie d'entendre, avec un vrai statut de star, et tout ça en 8 mois à peine. Donc c'est vrai que la digestion, elle est assez dingue.
Et puis quand on parle aussi de l'année prochaine, chaîne de on sait ce qu'on va en parler, mais justement de dire c'est un pilote donc qui est chez Racing Bull, donc l'écurie sœur, pour simplifier, et qui pourrait être potentiellement l'année prochaine le coéquipier de Max Verstappen. Ça parle aussi, les gens se disent Max Verstappen, quadruple champion du monde, coéquipier avec lui, waouh. Donc et c'est vrai que c'est quand même c'est un timing en fait. Déjà il l'a prouvé, il l'a mérité, et c'est top. Mais du coup, c'est aussi un timing favorable pour lui. Et il a même lui d'ailleurs dit en conférence de presse que c'est le naturel des choses. Il y a des chances pour que je puisse évoluer. Et donc, je me positionne au bon moment. Il n'y a plus trop personne à côté de lui qui rivalise. L'année prochaine, ça évolue. Donc, je sais qu'ils veulent me faire évoluer. Donc, il est aussi dans une bonne circonstance globale pour sa carrière, pour lui permettre peut-être de montrer de quoi il est capable dans une monoplace et de compétitive et de s'imposer. Donc il n'y a pas plus beau challenge, il l'a dit, d'être à côté de Verstappen pour voir vraiment de quoi il est capable, pour se mesurer.
Tu sais quoi, vous lui avez posé la question là, c'était en conférence de presse du coup samedi dernier, et c'est une journaliste qui lui demande si il est prêt à assumer le fait de rouler dans une Red Bull la saison prochaine aux côtés de Verstappen. Écoutez-le.
Ah non!
De l'année prochaine, alors. Ouais. La deuxième saison, environ.
Bien sûr. Voilà.
Cette séquence, parce que c'est très court, elle lui demande maintenant, elle lui répond non, l'année prochaine, il dit bien sûr. Là, on sent le petit sourire, tu le sens le petit sourire, et je peux rien dire et tout ça. Et en conférence de presse, Loulou, aujourd'hui, il a dit encore Isaac Hadjar, il a dit je n'ai rien signé avec Red Bull, la volonté de Red Bull, c'est d'attendre la fin de la saison, donc il y a encore un maximum de courses qui se disputent pour vraiment faire le bon choix. Donc il dit qu'il est absolument pas certain d'avoir le baquet. Malgré tout, là, c'est même plus des rumeurs qu'il y a. Il y a des infos qui fuitent un peu de partout. T'as les propos d'Helmut Marko à côté qui dit dans un média autrichien que c'est probablement un pilote qui a la capacité mentale de rivaliser avec Verstappen. Je trouve ça quand même énorme de la part d'Helmut Marko comme déclat. Tu sens que là, il se passe beaucoup de choses autour d'Isaac Hadjar, Louis.
Et puis de toute façon, ne croyez jamais un pilote de F1 ou un team principal quand il vous parle de que rien n'est signé ou rien n'est fait. Enfin, il vous dit normalement à peu près l'inverse de la vérité ou il s'arrange avec la vérité.
J'ai l'impression d'écouter Jean-Luc.
il détend sur moi. J'apprends les meilleurs. C'est ça, parce que, et puis d'ailleurs, c'est tout à fait normal quand tu fais des négos, machin. Enfin, nous aussi, on connaît ça. Notre toute petite échelle dans les médias, il y a la même chose. Il y a des quand dans des domaines un peu publics, on aime bien que tout soit ficelé avant de communiquer. Donc voilà, mais c'est vrai que là, ça c'est gros comme une maison. Ça normalement, il est dans le baquet Red Bull l'an prochain, et il n'y a plus qu'une question à se poser, c'est va-t-il couler comme tous les autres ou va-t-il être the chosen one, celui qui va réussir à avoir, sans parler de battre Verstappen, mais juste peut-être quelqu'un qui aura un vrai rôle de coéquipier avec une bataille où il sera juste derrière ou pas loin dans le game, quoi. Parce que on en est là, on n'a plus eu ça depuis maintenant... Combien de pilotes, en fait? Il les a tous tués. C'est un assassin. Non, mais c'est vrai, quoi. Genre, c'est quand Gasly, Kiat, tout ça, ça date d'il y a 10 ans, les amis, quasiment. Donc, depuis 10 ans, il étrit tout le monde dans son baquet. Alors, on sait que il y a quand même parfois les voitures ont toujours été faites pour lui ou ceci cela, mais quand même il y a une réalité, c'est que et d'ailleurs on le voit cette année avec une voiture plus compliquée, c'est qu'il est au-dessus quoi, tout simplement. Donc voilà, là c'est plus que le grand bain pour Isaac, c'est voilà, c'est le grand saut dans l'océan, et on va voir s'il s'en sort. Moi j'y crois déjà parce que j'ai envie d'y croire, et j'y crois parce que quand même il fait partie de ces quelques pilotes par génération où tu te dis tiens, lui il est dans le chapeau 1, lui
un truc en plus, ouais, il y a voilà, quelque chose, une lui, mentalité, une façon de
lui il peut être un champion du monde en devenir, et donc t'as envie de le voir comme ça, mais c'est vrai que t'as aussi peur quand tu connais la situation, quand tu connais un peu la malédiction de ce baquet, de te dire ah non j'aimerais pas que dans un an assis au même endroit ici on dise bon bah Isaac c'est très compliqué, il était encore à une seconde machin. Ça serait assez triste,
ouais. Tiens, vous lui avez posé la question Séraphin en conf de presse Isaac Hadjar concernant les attentes d'Helmut Marko, notamment cet été, voilà, au moment de la trêve estivale, il y avait une dynamique qui n'était pas dingue pour lui alors qu'il avait très bien débuté la saison. Il a eu un échange avec Helmut Marko et depuis il y a tout qui s'est mis en place. On l'écoute à ce sujet.
Il a été clair avec moi avant la reprise. Voilà, il a besoin de résultats. J'étais un peu sur une période où j'essayais mes trucs, mais ça payait pas. Et là, je suis rentré de vacances, j'ai aligné deux gros week-ends. Donc, ouais, le discours il a un peu changé. Et je pense que c'est des bons temps.
Moi, ce que j'aime bien avec Isaac Hadjar, c'est qu'il fait de la langue de bois parce qu'il est obligé de le faire, mais il y a toujours des petits sous-entendus, tu vois, des petits messages. Il glisse que le discours a changé, le statut a changé. Et tu sens que depuis ce podium à Zandvoort, le statut il est complètement différent, Loulou. Tu sens que, voilà, ça. Dans l'esprit d'Helmut Marko et du clan Red Bull, ils se sont dit, c'est peut-être lui le gars, en fait. Mm. Là, on en a été peut-être persuadé avant, mais le fait qu'il l'ait fait, ouais, c'est sûr, c'est peut-être lui le gars, quoi.
Bah oui, là, il a fait. Il a fait voilà, ce petit exploit, entre guillemets, qui le fait changer plus rapidement que prévu, on va dire, de catégorie, et qui confirme un peu, comme tu dis, on était tous à peu près, on savait, eux, ils savent chez Red Bull ce qu'il vaut, ce qu'ils pensent qu'il est capable de faire, tout ça. Et pour enlever les points d'interrogation, il faut montrer quelque chose de concret dans la voiture, en F1, et là, il l'a fait, donc voilà, il passe une catégorie. Mais vraiment, il faut mesurer quand même que la marche, la grosse marche, sûrement la plus grande marche, elle va arriver cet hiver et à la rentrée prochaine. Hein, parce que là, il va pas falloir rater son départ en Australie comme cette année.
Ah, ça, c'est clair.
Là, ça sera fini la mansuétude où tout le monde disait « Oh, Isaac, c'était son premier, il nous a fait de la peine. » Et puis derrière, il a super bien réagi et tout. L'année prochaine, il t'arrive un truc comme ça. Là, surtout pour te mettre dedans, dans le baquet Red Bull et tout, ça serait affreux, quoi. Non, mais j'y crois pas une seconde. Mais donc, voilà, pour moi, vraiment, quand même, il y aura toujours quand même cette prise de risque de ce baquet qui est si spécial, quoi.
Et dernière question, dernier petit son qu'on a isolé, là, des questions que tu lui as posées, Séraphin, c'était sur sa digestion un peu du podium à Zandvoort, comment ça s'est passé après la course, ce qu'il a fait depuis. Il a été ultra sollicité, vous l'imaginez bien, Isaac Hadjar.
Je n'ai pas ressenti grand-chose sur le moment. J'étais plus en train de penser à tout mon parcours depuis le karting et toutes les galères que j'ai rencontrées avant d'arriver en Formule 1. Donc, c'est plus à ça que j'ai pensé. Pour moi, c'était vraiment... arriver à ce niveau-là, c'était vraiment irréalisable. Et là, d'y être et d'avoir ce podium si tôt dans ma carrière, moi, c'était un peu dur à concevoir sur ma main. Pas dans un rêve et tout. C'est un objectif que j'avais. C'était mon premier podium. Je l'ai fait. Et maintenant, on passe à la suite.
Ouais, c'était pas un rêve, c'était un objectif. Ça, il l'avait déjà dit. Enfin, ce qui est cool avec Isaac Hadjar, c'est qu'il est quand même ultra frais, tout le temps. Même quand c'est des opérations médiatiques comme ça, où il y a 25 000 personnes, il y a 25 000 fans, c'est des choses qui peuvent être fatigantes aussi quand t'es sollicité comme ça. Il joue toujours le jeu. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi sur place, mais tu le sens à l'aise, nature.
Mais carrément. Déjà, ce qui est drôle, c'est que même Isaac est plus jeune que moi. Donc je me dis, t'as le mec, il est quand même, il a 20 piges, tu vois. Et Ouais, c'est pas faux. Du coup, je me dis, waouh, le mec, il est déjà là et tout, c'est incroyable. Et c'est sûr que dans la façon de son attitude, tu sens que, bah, il, tu vois, il, c'est encore un jeune homme, en fait. Donc, il est effectivement dans un environnement depuis pas mal d'années. Ça fait quoi, 3 ou 4 ans, je pense, qu'il est dans l'académie Red Bull, qu'il avait été repéré par
2021, je crois. 4
2021
ans.
par Marco. Donc, tu vois, ça fait 4 ans. Donc, il a énormément grandi. Mais oui, il garde une forme de spontanéité, de petite fraîcheur, comme tu dis. Il a une personnalité un peu qui est unique et qui est importante et qui fait aussi le charme entre tous les pilotes pour pas qu'ils se ressemblent tous. Donc, c'est sûr que c'est hyper agréable. Et ouais, il a ce côté un peu, ouais, il a ce côté joueur. On sait qu'il a un tempérament aussi un peu, quand il est en piste, vraiment de battant, bah, toujours à rien lâcher. Dès qu'il y avait eu quelque chose qui était contre lui ou pas de son fait, à chaque fois il râlait à la radio clairement et il était frustré, ce qui est normal. Et on voit que cette année ça s'est vachement calmé aussi. Là, je me souviens depuis par
Ah, il
rapport à
pleurait,
la
hein.
F2, voilà, là cette année franchement il a géré aussi ces tempéraments-là. Il fait de la boxe, hein, et puis il suit aussi, donc il fait d'autres activités à côté aussi pour canaliser. On sait qu'il travaille dessus, mais ouais, c'est sûr que. En fait, on est en train de se rendre compte que c'est un mec qui a 20 ans, qui est déjà en Formule 1, voilà, qui a déjà en fait prouvé plein de choses sur une saison. Et franchement, un rookie faire un podium une première saison, bah ça c'est quand même pas. Peut-être, je crois qu'Oscar en avait fait un il y a 3 ans déjà pour
Ouais.
la première saison, mais c'est quand même pas tous les jours. Il y avait Antonelli, mais qui avait une Mercedes là dans une Racing Bull quand même. C'est ça qui est encore plus incroyable à la régulière. Donc il est en train de prouver des choses vraiment très grandes et il est super jeune. Donc en fait là maintenant les portes s'ouvrent à lui et on se souvient évidemment du cas de Gasly en 2019 où il était monté dans la Red Bull, mais c'était différent. La voiture et Max en face lui avaient pas laissé le choix. On sait que Red Bull aussi sont très très pressants sur ces pilotes. Évidemment on a l'exemple
Ouais, et puis
cette année
Verstappen
avec Lawson.
n'avait pas le même statut, il n'en avait pas
Ah bah
déjà
ouais,
gagné 4.
non.
Peut-être que là, tu vas lâcher un peu de lest, tout est différent
La
là.
voiture est nouvelle. En fait, c'est ça qui est complètement différent. Il l'a
Ouais,
dit,
et
c'est
en
que
plus,
c'est
oui,
tout
la
nouveau. Le
réglementation.
moteur, déjà, le moteur, c'est Ford derrière qui fait le moteur. On ne sait pas du tout comment ça va être. Et vu que toute la voiture va être différente, il nous l'a dit d'ailleurs en conférence. Bah, je lui ai même posé la question. Je lui ai dit, comment tu vois avec ce changement de réglementation 2026, toi, ton positionnement l'année prochaine? Et il dit, bah, c'est clairement en fait un bon timing parce que le pilote va faire vraiment plus la différence. Et c'est celui qui va bosser le plus dur cet hiver. C'est ce qu'il a dit. Il a raison. Qui va faire la différence. Donc il a dit ouais, je vais passer l'hiver dans le simu à bosser et puis voilà, il n'y a plus qu'à se confronter l'année prochaine avec une voiture qui peut être du coup bah, moins compétitive peut-être hein, face à d'autres
Après,
si les
avec Louis, tu
autres
sais, on a passé des hivers sur la play, machin, on n'a pas percé pour autant. Hein. Pourtant, on en a bouffé du circuit, hein. Mais
Ah
bon.
bah ouais. Donc ouais non c'est hyper appréciable.
Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, je voulais savoir quand même, les gars, parce que on n'arrête pas de dire, et c'est Louis qui le disait, Max Verstappen, il étrille ses coéquipiers depuis maintenant quasiment 10 ans. Est-ce qu'on a des stats un petit peu pour voir l'ampleur du challenge pour Isaac Hadjar? Parce que c'est ce que je me dis. La tâche est quand même ultra complexe. Est-ce qu'on sait à quel point Verstappen a roulé sur tout le monde?
Moi, du coup, je te dirais que déjà, de façon simple, Verstappen a toujours dominé en termes de points ses coéquipiers.
Ouais.
Depuis 2015 qu'il est en Formule 1. Il était donc officiellement ses premiers Grands Prix, c'était en 2015 chez Toro Rosso. Donc, je vais vous les faire. On va revenir un petit peu en arrière et voir un peu tous ces chiffres. Donc, 2015 chez Toro Rosso jusque mai 2016. Donc, il était face à Carlos Sainz. 23 Grands Prix. Déjà Verstappen, 62 points, Sainz, 22 points. Donc déjà, sur sa première saison, dans Toro Rosso, il a dominé. Ensuite, on se souvient, il arrive donc en début de saison 2016, puisqu'il remplace Daniel Kvyat, et donc il arrive à Barcelone en 2016, face à Daniel Ricciardo, qui était quand même le pilote Red Bull. Et donc sur à peu près 2 ans et demi, sur 58 Grands Prix, il a fait 608 points, Verstappen, dont 5 victoires, évidemment sa première à Barcelone qui était incroyable, face à Ricciardo, qui était à 590 points et 4 victoires. Donc c'était quand même très serré. C'est parce que Ricardo était quand même installé dans l'équipe. Et en fait, c'est après la fin de saison où on se souvient du move de Ricardo qui part chez Renault et en pensant effectivement de voir autre chose. Mais c'était quand même pas rien face à Ricardo. Moi, je trouve que c'est quand même là où ça a vraiment été impressionnant. Et après, là, ça s'est enchaîné. Début 2019, il y a eu 12 Grands Prix avec Pierre Gasly, Verstappen 181 points, dont 2 victoires et Gasly 63. Il sera remplacé cette saison de septembre 2019 jusqu'à la fin de saison, jusqu'à 2020, pardon, donc pendant un an et demi, par Alex Albon. Donc sur 26 Grands Prix, Verstappen 311 points, 3 victoires, Alex Albon 181 points. Ensuite, c'est Sergio Pérez, évidemment, on l'en souvient quand même, grosse période aussi avec le pilote mexicain.
Bah ouais.
Donc, 4 saisons pour Sergio Pérez, de 2021 à 2024, 90 Grands Prix. Verstappen, 1861,5 points, pardon, 53 victoires. Il y a quand même deux grosses années hyper dominatrices pour Red Bull. Face à Pérez, 932 points et 5 victoires. Pour Pérez, on se souvient
En fait, à chaque fois, il met le double de points que les copains.
Ah ouais, c'est à peu près ça. Et après, tout récemment, donc là, on retourne sur un cycle où Red Bull ne trouve pas de solution. Donc, on laisse pas tant Liam Lawson que deux grands prix. Verstappen qui met 36 points et 0 pour Lawson. Il avait été remplacé en début de saison. Et là, du coup, actuellement, Yuki Tsunoda, quand même, pourtant, 4 saisons chez Racing Bull, qui monte dans la Red Bull et toujours pas de points. Donc, 194 points pour Verstappen et 9 points actuellement pour Tsunoda. Dans la Red Bull.
Ça fait mal.
Donc voilà, depuis 10 ans, en fait, on se rend compte qu'il a écrasé. Il y a eu quand même, je pense qu'on peut relever les années passées avec Ricardo, qui étaient quand même importantes. Et le début de Pérez, 2021, quand même, on se souvient du
ouais, mais
du bon bras droit.
Ce qui est un peu inquiétant pour Isaac, c'est que tu as la sensation. T'as la sensation que c'est de pire en pire en fait pour les mecs qui sont à côté de lui, Louis.
Ouais,
quand
c'est
tu
ça.
Vois le pauvre Tsunoda là, quand tu vois comment il a mangé Lawson.
Après, il faut reprendre la liste et peut-être essayer de prendre le problème à l'envers et de se dire dans tous les seconds pilotes qu'on a cités, combien on mettrait plus fort qu'on imagine Isaac. Tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que finalement dans la liste Isaac, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas fait d'un autre bois et n'a pas un truc en plus qui fait que lui va y arriver. Moi, c'est ce que j'espère, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que je disais méfions-nous, parce que c'est tellement un alien, le Verstappen, qu'il ne faudrait pas qu'il nous broie notre petit Isaac. Quoi.
Ouais. Ouais.
Et puis Red Bull aussi, quand même, c'est important de le dire, a quand même vachement changé hein, depuis 10 ans. Là, depuis un an et demi, on a quand même perdu Christian Horner. Mm. On a quand même perdu Adrian Newey, on a perdu Wintley, il y a beaucoup de gens qui sont partis chez Red Bull. Ça a énormément évolué en interne. Donc c'est aussi une situation globale qui est un peu différente. Là, c'est Pierre Vacher qui gère la voiture. Donc c'est aussi une situation qui est, je trouve, plus favorable pour lui que n'a été les saisons précédentes. On a quand même aussi Laurent Mekies, du coup, maintenant, qui est arrivé chez Red Bull et qui est aussi très proche de Isaac. Il a été avec Racing Bull, il est français, on sait que ça peut aussi l'aider. Donc, j'espère que, au vu de tout ce qui va arriver l'année prochaine, on va développer une voiture pour vraiment les deux pilotes. Ça va peut-être aussi être plus. Est-ce que cette marge qu'on a toujours de cette Red Bull, qui est difficile à exploiter et que Verstappen avait réussi à faire pendant toute saison, est-ce que l'année prochaine, vu que c'est nouveau, peut-être que la façon finalement aussi de conduire un peu ces voitures va évoluer, hein, parce qu'il y a quand même moins d'effet de sol, tout ça. Donc. Moi, je pense qu'il est dans une bonne situation. Après, tant qu'on a pas vu la voiture en piste, bah évidemment, pas non plus trop s'avancer. Mais...
C'est clair. Bon, les gars, on se fait des petits pronos pour Bakou ou pas, là?
Allez.
On le sent comment? Moi, j'ai envie que vous me vendiez du rêve, là. J'ai envie que... D'ailleurs, il faut que je fasse un point un peu sur les pronos depuis le début de la saison. Je ne l'ai pas encore fait. On va se le faire, là, pour le prochain débrief. Parce que là, il faut quand même qu'on fasse un petit championnat entre nous.
Oui.
Allez, Loulou, vas-y, lance-toi.
Alors, Charles est très fort le samedi, très souvent là-bas, donc je me dis pourquoi pas, parce qu'en ce moment, ils sont un peu derrière, évidemment, McLaren, mais ils peuvent y arriver selon le jour, selon le circuit, selon comment l'équipe s'est levée le matin. T'as un peu l'impression que c'est comme ça chez eux, mais... Donc pourquoi pas. Et puis après le dimanche, je suis désolé, je vais être très classique, mais même si Séraphin nous a dit que peut-être il serait moins fort là-bas, je vois quand même les McLaren devant et avec sur le podium derrière Verstappen, parce que par rapport au circuit, je le vois bien réussir à encore être au-dessus de ce que sa voiture peut faire. Voilà, très classique, hein, ennuyeux.
Non, 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 mais tu sais, t'as le droit des fois d'être un petit peu voilà, ennuyant. C'est pas grave. Vas-y, Sarafin.
Ah, moi, je vais mettre Piastri. Allez.
Moi, j'ai une cote.
Piastri, ouais. Je vais mettre le gagnant. Ça ne peut jouer à grand chose. Et allez, d'ailleurs, je vais mettre Max et Charles. Et je vais vincer Norris.
Tu sors Lando Norris du podium.
Je me dis déjà, Charles, même si c'est pas toujours bon pour lui en qualif cette année, il peut quand même, avec sa régularité précédemment, se positionner bien. Max aussi, parce que je pense qu'il peut être impressionnant. Et puis, ouais, non, je vais tenter de mettre aller en dehors Norris de ce.
Ok, de ce podium. Allez, qu'est-ce que je mets? Bon, moi, je vais mettre une McLaren devant. Je vais mettre Lando Norris parce que j'avais la sensation que. Qui revient bien quand même depuis Zandvoort et tout ça. Et je mets une petite cote sur le podium. Je mets un petit George Russell qui tourne bien à Bakou. Il a déjà deux podiums. Conditions froides au plus. Des fois, la Mercedes, elle aime bien. Et on ne sait pas trop pourquoi. Eux non plus, ils ne savent pas pourquoi. Mais en général, quand il fait frisquet, ça ne tourne pas trop mal pour Mercedes. Et je vois bien mon petit George Russell mettre un petit. Pointer le bout de son museau sur le podium.
Ouais, donc, j'aurais pu dire ça aussi. Ouais. Je vois bien, c'est vrai que quand on ne sait pas qui mettre en troisième, souvent c'est Russell.
C'est vrai.
Et tellement régulier que.
D'ailleurs, George Russell qui essaie de négocier un contrat pluriannuel avec Mercedes, mais Toto veut pas. Hein. Donc ça, pour l'instant, ça coince un petit peu entre Russell et Mercedes, mais il devrait quand même trouver un compromis, on va dire. Bon les gars, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je vous rappelle que la course est à 13h sur RMC avec Jean-Luc. Loulou, tu peux retourner faire une petite micro-sieste.
Allez, hop.
Voilà, avant de remonter dans la voiture. Qu'est-ce qu'il est solide celui-là. Et puis Sarafin bosse les datas pour lundi hein, parce que voilà hein, tu me bosses la météo, tu me bosses tout ça. Allez, bye bye les gars, et n'oubliez pas de vous abonner au paddock RMC. Ciao.
Ciao.
Le paddock RMC.